Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette toute première édition du Sportif de Salon. Le Sportif de Salon, c'est quoi? Ben, c'est simple. C'est un podcast animé par moi, Nicolas Salant, qui va traiter d'actualités sportives et parfois culturelles. Je vais tenter, à chaque semaine, dans le fond, si le thème me le permet, de vous offrir un tour d'horizon des différentes nouvelles qui sont passées dans la dernière semaine dans le monde du sport. Je vais parler de basket, je vais parler de hockey, je vais parler de football, je vais parler de soccer. Bref, je vais parler des choses qui m'intéressent et qui vous intéressent. En plus de ça, je vais tenter d'ajouter mon opinion et ma critique sur les grandes lignes de ce qui s'est passé dans la dernière semaine dans le monde du sport. Donc, j'espère que vous allez apprécier ce podcast. J'espère que ce ne sera pas le dernier, car j'apprécie bien l'expérience. Et ben, bref, commençons le show dès maintenant et amusez-vous!
Ladies and gentlemen, welcome to the main event!
Commençons cette semaine notre émission et le tour d'horizon avec la Ligue nationale. C'est pas pour rien, je vais souvent commencer par la Ligue nationale puis je vais souvent mettre plus de temps là-dessus. Parce que ben, tout le monde le sait, le hockey c'est notre sport national ici. Puis ben bref, c'est le sport qui m'intéresse le plus moi personnellement. Donc commençons par ça et commençons par parler du Canadien de Montréal. Parce que même si c'est pas mon équipe à moi, le Canadien de Montréal, c'est l'équipe des Québécois. Puis faut se le dire, il faut se l'avouer, cette année, l'équipe va super bien. À l'heure où on se parle, à l'heure où j'enregistre l'émission présentement, ils ont 19 points sur une possibilité de 28, ce qui les classe premier dans l'Est, deuxième dans la Ligue nationale. 19 points sur une possibilité de 28, c'est excellent. Personnellement, je m'y attendais un peu, parce que la formation du Canadien de Montréal cette année, c'est une des plus belles que j'ai vues au cours des, je dirais, des 10 dernières années. Équilibré, 4 bons trios, une défensive, ok, il manque une petite chose, mais quand même, une défensive relativement solide, puis ben, il y a Carey Price derrière qui est tout simplement spectaculaire. Pour moi, puis je vais le dire là, puis je vais sûrement le redire plus tard, Carey Price, c'est le meilleur gardien de la Ligue nationale. Avec ce qu'il nous a prouvé l'année passée aux Olympiques, en saison régulière et en série avant sa blessure, il fait aucun doute que ce gars-là, pour moi, c'est le meilleur gardien de but de la Ligue. Cependant, je me garde une gêne parce que, pour moi, il manque une petite chose au Canadien de Montréal pour que le Canadien de Montréal puisse aspirer aux grands honneurs. Et je m'explique. Je trouve que trop souvent, l'équipe compte sur Carey pour aller chercher des victoires. Et pas assez souvent, c'est très rare qu'on voit l'équipe tirer un gros match, Carey en tirer une mauvaise, et que l'équipe sorte avec les deux points. Tandis que l'inverse se produit trop souvent, selon moi. Donc, ce serait un aspect à corriger parce que les gars, ils ont vraiment du talent. Ils ont une bonne équipe jeune, un bon noyau qui va être là pour les années à venir. Mais il manque un peu de combativité, un peu d'âme, si on veut, au sein de cette équipe-là. Quand on regarde des joueurs comme René Bourque, comme Travis Moen, qui, soir après soir, ont la confiance de Michel Therrien, ce qui, personnellement, j'ai de la difficulté à comprendre. Mais tu vois ces gars-là qui, soir après soir, malgré qu'ils ne font pas l'unanimité dans les médias, au sein du public, sont mis dans l'alignement et ne travaillent pas, selon moi, à leur plein potentiel. Alors qu'on a des gars comme Mickaël Bonnival, on a des gars comme Yerry Sekak, des jeunes joueurs talentueux, avec de la vitesse, que tout ce qu'ils souhaitent, c'est être dans l'alignement. J'ai de la misère à comprendre pourquoi ces gars-là sont encore là, avec les performances qu'ils nous ont offertes depuis le début de la saison. Ceci étant dit, j'aimerais spécifier en tant que non-fan du CH les performances de Alex Galchenyuk qui, à mes yeux, est le meilleur jeune joueur présentement dans la Ligue nationale. Le joueur de sa cuvée de repêchage qui potentiellement peut devenir la grande superstar de cette ligue. Déjà depuis le début de la saison, on a vu l'amélioration de Galchenyuk par rapport aux saisons précédentes. On voit qu'il y a plus de confiance, ça sent plus de ses bonnes mains, marqué quelques beaux buts, et bref, ce gars-là est bourré de talent, il est à suivre pour les années à venir, les pouleuses, regardez bien Galchenyuk, parce qu'il pourrait faire sauter la banque bientôt à Montréal également. Donc, un point positif, certainement, dans la saison du Canadien. Autre point, les performances de Piqué Souban, qui présentement dans les médias, commencent déjà faire preuve de questionnement. Questionnement parce que cet été, le Canadien de Montréal ont décidé d'accorder un nouveau contrat, une prolongation de contrat au défenseur Piqué Souban, avec moyennant 9 millions par année sur la totalité du contrat. Personnellement, j'étais un qui était en faveur de ce type de contrat-là parce que j'ai vu jouer Piqué Subban et c'est, selon moi, un défenseur remarquable qui peut changer l'issue d'un match à lui seul. J'ai rarement vu des joueurs aussi dominants que Piqué Subban dans la Ligue nationale. Ce gars-là a une vision de jeu, un contrôle, une vitesse incroyable. C'est un joueur de concession. Cependant, depuis le début de la saison, Piqué n'a pas joué à la hauteur de son 9 millions. Et dans un marché comme Montréal, on s'entend que ça n'allait pas être long avant que monsieur et madame tout le monde se mettent à le critiquer. Moi, je trouve que c'est rapide pour paniquer. Piqué est encore jeune, mais c'est vrai que les pénalités stupides en fin de période, les gestes d'indiscipline qui coûtent cher à l'équipe, mais me font comprendre pourquoi Michel Therrien n'a pas mis le cire sur le chandail de ce gars-là. On voit qu'il fait tout pour devenir le prochain capitaine du Canadien, mais ses performances et son attitude sur la glace, selon moi, justifient très bien le fait que, pour l'instant, Piqué a un A, puis ça ne va pas aller plus loin que ça. Maintenant, on va s'éloigner un peu du CH pour parler de l'ensemble de la Ligue. Premier dans la Ligue nationale présentement, les Ducks d'Anaheim avec 21 points, 2 points d'avance sur le Canadien. Quel bon début de saison pour les Ducks, malgré de nombreuses blessures, surtout au poste de gardien de but. On a Anderson qui a fait le travail pour les matchs qui étaient là, il vient de se blesser. On a Gibson, la recrue, qui a fait du quand même relativement bon travail, se blesse également. Donc, il va être intéressant de voir ce que les Ducks vont, si les Ducks vont poursuivre sur leur bonne lancée avec un gars comme Jason LaBarbera dans les filets. Pour les Ducks, ben c'est simple. Corey Perry, 10 buts, premier buteur de la Ligue, 2 tours de chapeau depuis le début de la saison. Il est tout simplement en feu, il a été nommé première étoile de la Ligue nationale pour le mois d'octobre. Les surprises depuis le début de l'année, au classement général, 3e Vancouver, 4e Calgary, égalité à 18 points, surprenant, oui. Bob Orton qui a fait un excellent travail avec sa troupe. On a eu la chance de les voir deux fois contre le Canadien cette saison. Et je dois dire que j'ai été très impressionné par cette équipe-là. Pas énormément de talent offensif, mais les joueurs travaillent sans relâche. Quand on regarde un joueur comme le jeune Johnny Gaudreau, à la grandeur et la grosseur qu'il a, ce gars-là est bourré de talent. Je suis convaincu qu'il va avoir une brillante carrière dans la Ligue nationale. Après ça, tu regardes leur défensive. Mark Giordano et Brody font un travail incroyable pour les Flames de Calgary depuis le début de la saison. Mais le véritable travail et le véritable héros de cette équipe, c'est Jonas Siler dans les filets qui fait tout simplement des merveilles. Il enchaîne les matchs de plus de 40 arrêts depuis le début de la saison. Lui et Carey Rameau font un excellent travail dans le filet des Flames et c'est la principale raison pourquoi ils sont 4e dans la Ligue nationale. Les déceptions maintenant. Je dois dire que quand je regarde le classement général, je vois une équipe comme Colorado qui nous ont promis de grandes choses avec une saison remarquable l'an dernier. Ils sont présentement à 11 points sur une possibilité de 28 au 26e rang de la Ligue. Patrick doit chercher des solutions en ce moment parce que son équipe ne lui donne pas les résultats escomptés. On a une équipe comme Chicago aussi qui a un lent début de saison en milieu de peloton dans la Ligue, 14e avec 15 points. On pourrait s'attendre à mieux d'une équipe que moi, personnellement, je considère comme la favorite pour remporter la prochaine Coupe Stanley. Sur une touche plus personnelle, maintenant, je dois dire que je suis quand même satisfait du travail de mes Red Wings de Détroit qui, avec 16 points, se classe au 10e rang de la Ligue. Écoutez, continuez comme ça les boys, ça va bien aller. Si on regarde maintenant le championnat des marqueurs, Sidney Crosby en tête, ce qui n'est pas vraiment surprenant, il nous habitue à dominer le classement des marqueurs. Suivi de très près par exemple par Jakub Voracek qui connaît une excellente saison pour les Flyers de Philadelphie. Lui et Claude Giroux sur le même trio, ça fait beaucoup de dommages. Voracek qui a déjà 13 points, 13 passes, pardon, qui est premier au chapitre de la Ligue. Giroux est avec lui avec 12 passes, donc leur trio marche super bien. Donc dans l'ordre, si on regarde les points, on a Crosby avec 19, Voracek avec 18 et Kessel qui suit avec 16. Donc des joueurs de l'Est qui se démarquent présentement au chapitre des points. Maintenant, si on regarde les gardiens de but, Ryan Miller à Vancouver avec 9 victoires. Ryan Miller qui a changé d'adresse plus d'une fois dans les dernières dans la dernière saison. On se demandait est-ce que Vancouver il va faire le travail, est-ce que Ryan Miller est fini. Et les Vancouver qui sont surprenants cette année et Ryan Miller qui est en grande partie responsable des succès de l'équipe. 9 victoires, 2 d'avance sur Frederick Anderson au chapitre des victoires chez les gardiens de but de la Ligue. C'est pas mal ça qui complète le tour d'horizon de la Ligue nationale. Maintenant, on va aller parler de basketball, parce que la grande nouvelle dans le monde du basket, ce que tout le monde attendait dans le fond, c'était le retour de LeBron James, le King, à Cleveland, après avoir passé quelques saisons à Miami. Que peut-on dire de ce début de saison qui est très décevant pour les Cavs? 1 victoire, 3 défaites à l'heure où on se parle. On sent que la chimie est quand même longue à s'installer. Faut se dire qu'il y a seulement 4 matchs à jouer et que la pré-saison, c'est rapide pour installer une chimie. Mais avec l'acquisition de Kevin Love, avec LeBron James qui est retourné à la maison et Kyrie Irving qui est un de mes joueurs favoris depuis les dernières années dans la Ligue, je dois me demander qu'est-ce qui se passe avec mes Cavs. Je suis pas inquiet parce que, comme je viens de le dire, c'est très tôt dans la saison, mais c'est l'attitude que LeBron James a laissé transparaître dans ses premiers matchs. Je suis conscient qu'hier, il a fait un match complet de 31 points dans une défaite à la dernière seconde contre le Jazz de Utah, mais LeBron a montré des signes d'impatience sur le terrain, puis c'est moi, c'est personnellement, c'est ça qui me fatigue. On voyait des séquences où il se faisait battre par un joueur et il arrêtait complètement, il sortait du jeu, il faisait pas d'effort pour revenir dans le jeu. Et c'est surtout ça qui m'inquiète. LeBron a dit en entrevue que c'était son rôle, il laissait jouer les autres, il voulait apprendre à ses nouveaux coéquipiers et les laisser comprendre par eux-mêmes, mais quand même, avec une vedette comme ça qui revient, avec les fans qui ont tant d'attentes, qui ont tant souffert de son départ, je m'attendais à un LeBron James beaucoup plus combatif que ce que je vois présentement. Espérons que c'est passager, que les Cavs vont se remettre. La saison est très, très jeune. Mais quand même, petit bémol personnel de ce côté, j'espère que mes Cavaliers vont se replacer d'ici peu. Si on fait le tour de la Ligue maintenant, on a toujours 3 équipes parfaites à l'heure où on se parle dans la conférence de l'Ouest. On a Memphis, Golden State et Houston qui n'ont pas perdu présentement. Golden State, très belle équipe, une de mes favorites dans l'Ouest. Et c'est même eux que je vois faire un grand bout de chemin en séries éliminatoires. Maintenant, de l'autre côté, dans l'Est, on a Washington qui est installé au premier rang avec Chicago et Toronto. Les Raptors, bon début de saison, 4 victoires en défaite. Avec la saison qu'ils nous ont offert l'année passée, je pense qu'on peut se permettre de croire et d'avoir beaucoup d'espoir dans cette équipe. Beaucoup de bons joueurs, une belle équipe. Personnellement, une des équipes que j'aime bien voir évoluer, les Raptors de Toronto, et ça promet pour le reste de la saison. Maintenant, faisons un retour sur les séries éliminatoires de la Ligue majeure de baseball. Ça fait maintenant une semaine, quelques jours près, presque 2 semaines que c'est terminé, et je dois dire que je suis un peu déçu car je favorisais les Royals de Kansas City pour l'emporter, mais que dire de Madison Bumgarner? Quel lanceur! Je crois qu'il a démontré à tout le monde quel talent il possédait, ce jeune lanceur. C'est assez incroyable ce qu'il nous a offert comme performance. Il mérite pleinement son trophée de joueur par excellence de la Série mondiale. Avec les belles sorties qu'il a effectuées au monticule des Giants. Donc les Giants, 3e conquête de la Série mondiale en 5 ans. Peut-on parler d'une dynastie? Bien, moi je pense que oui. Favoris, année après année, les Giants nous ont montré qu'ils étaient une équipe coriace, redoutable, qui peut aspirer aux grands honneurs à chaque saison. Maintenant, c'est la période des joueurs autonomes dans la Ligue majeure de baseball. Il va être intéressant de voir ce que les équipes font. Je pense particulièrement à mes Yankees, une équipe vieillissante qui est plus au sommet de sa forme. On s'entend, les Yankees, c'est plus la grande puissance que c'était il y a de cela 5, 6, voire 10 ans. Donc, avec l'argent, on sait ce qu'on peut faire. On a des joueurs comme Pablo Sandoval, qui est maintenant libre comme l'air, est-ce que ça pourrait intéresser les Yankees? Ou bien ils vont attendre le retour de A-Rod, qui cette semaine a avoué officiellement s'avoir dopé. Est-ce qu'on va faire encore confiance à Alex Rodriguez pour diriger le troisième but l'an prochain chez les Yankees? Ou un joueur comme Sandoval peut intéresser l'équipe? On sait qu'avec le budget que les Yankees ont, ils peuvent se permettre de se payer un joueur comme Sandoval. Maintenant, j'aimerais changer de sport totalement et vous parler un peu de ballon rond. Le ballon rond, pour moi, le soccer, c'est une passion. C'est un sport que je suis énormément, de plus en plus à chaque année. Et j'aimerais vous parler de la Ligue majeure de soccer, la Ligue américaine et canadienne, et de l'Impact de Montréal. Étant un fan de l'Impact de Montréal, je dois faire un léger retour sur la saison qui, ma foi, quelque peu catastrophique du 11 montréalais. L'Impact est fini bon dernier dans l'association de l'Est. N'a pas été dans la course du tout depuis le début de la saison, qu'ils enchaînent défaite après défaite. Et je sens que l'équipe a de la misère à sa troisième saison à MLS de se trouver encore une identité propre à elle. On a fait venir des grands joueurs d'Italie, Marco Di Vaio, Alexandre Nesta. On a des joueurs américains, des joueurs canadiens. Cette année, on a fait venir un nouveau joueur désigné, un Argentin, Ignacio Piatti. On semble avoir une équipe qui se cherche année après année. Et malgré trois entraîneurs en trois ans, ne trouve pas encore ses repères. Di Vaio prend sa retraite. Déjà là, c'est un coup dur pour l'Impact. Le meilleur buteur en MLS de l'histoire de l'équipe. Selon moi, le meilleur joueur à avoir foulé le maillot de l'Impact de Montréal. Ça va être difficile à remplacer. On sait que l'équipe a parlé d'amener plus de joueurs de qualité, je dirais, plutôt moyenne. Et ils ne tentent pas de remplacer Di Vaio poste pour poste avec un autre joueur désigné. On veut donner une plus grande profondeur à l'équipe avec ce que le budget salarial nous permet. Donc, c'est intéressant de voir. Il y a beaucoup de rumeurs qui circulent présentement, des joueurs argentins qui ont joué avec Ignacio Piatti qui pourraient se joindre éventuellement avec l'Impact. Ça va être intéressant de suivre ça. Maintenant, il n'y a pas seulement du négatif du côté de l'Impact cette saison. Il y a quand même des points positifs. On peut penser à la qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions de la CONCACAF. C'est pas rien. L'équipe qui a remporté pour une deuxième année consécutive la Coupe des Voyageurs, la Coupe canadienne, pour ensuite terminer première de son groupe et avoir ses qualifications pour les quarts de finale. En février prochain, l'équipe va entamer sa saison là-dessus, vont poursuivre le parcours en affrontant Pachuca, une équipe mexicaine. Une équipe battable pour le 11 montréalais, mais après ça, je ne crois pas que l'Impact a l'effectif présentement pour pouvoir aspirer à remporter la Ligue des champions de la CONCACAF. Il y a beaucoup de bonnes équipes mexicaines, des bonnes équipes costaricaines dans la compétition qui peuvent donner du fil à retordre aux 11 montréalais. Donc, avec l'effectif qu'ils ont présentement, je ne crois pas qu'ils puissent aspirer à une Coupe de la Ligue des champions. Maintenant, quels sont les points à améliorer chez l'Impact de Montréal en vue de la saison prochaine? Clairement, la défensive. Cette année, une défensive qui a coûté cher à l'Impact de Montréal, beaucoup de buts accordés, des avances perdues. On a laissé, dans les récentes semaines, partir Matteo Ferrari, un vétéran défenseur, qui a rendu fidèle service à l'Impact de Montréal, mais qui semblait compter les années et se rapprocher d'une fin de carrière. Donc l'Impact a décidé de se séparer de lui et de son gros salaire. Maintenant, qui l'Impact va désigner pour remplir les laissés par Ferrari? Je me le demande. On a les produits de l'Académie qui poussent, qui se développent très bien. Je pense à Vandré Lefebvre, je pense à Carl Wimet, je pense à Maxime Tissot. Mais je ne crois pas que ces gars-là sont prêts, présentement, à devenir des réguliers dans la MLS. Reste maintenant à voir ce que Frank Lopez va penser de son effectif et quel geste il va apporter pour améliorer cette défensive. On parle beaucoup d'Aurélien Collin, un gars à Kansas City qui pourrait venir remplir un rôle de défenseur central numéro 1 chez l'Impact de Montréal. Est-ce que Collin est intéressé à venir? Ça, c'est une autre histoire. On sait que Montréal, avec la saison qu'ils viennent de connaître, ne sont pas en une bonne posture, je dirais, pour aller chercher les plus grandes vedettes du circuit. Reste à voir ce qu'ils vont faire à ce côté. Au niveau du milieu de terrain, je pense que c'est l'endroit où l'équipe est un peu plus stable. On a des vétérans capables de quand même faire du bon boulot. offensivement, c'est une autre paire de manches. On vient de perdre notre Hans Marker, Marco Di Vaio, notre joueur de concession. Maintenant, on a Jack McInerney qui fait le travail, qui était substitut cette année. Est-il prêt à prendre le rôle de numéro 1? Je ne crois pas. Je pense pas que Kloppas McInerney comme Hans Marker dans sa soupe. Il va sûrement essayer d'aller dénicher un autre joueur pour le supporter, qui est à jouer un 4-4-2. On parle beaucoup de Connor Casey, qui joue présentement à Philadelphie, qui pourrait être disponible dans un repêchage d'expansion. On parle aussi d'Olivier Océan, le Canadien, qui joue présentement à Francfort, en Allemagne, qui a lui-même appelé Frank Lopez pour donner ses services à l'Impact de Montréal. On sait qu'Olivier Océan n'est plus le joueur qu'il était il y a peut-être 3 ou 4 saisons, mais quand même, un attaquant d'expérience avec beaucoup d'années jouées en Europe pourrait être une solution intéressante pour l'Impact de Montréal. Maintenant, c'est les séries présentement dans la MLS, et je dois avouer que mon grand favori pour l'emporter cette saison, et ce sont les remplaçants du Supporter Shields, le Sanders de Seattle. Je pense qu'ils ont un duo électrisant à l'attaque avec Obafemi Martins, supporté par Clint Dempsey derrière. Je pense que c'est vraiment le meilleur duo offensif du circuit. Ils l'ont prouvé cette saison en allant décrocher le trophée d'équipe championne. Maintenant, dans l'Est, mon équipe pour se rendre en finale, c'est le Red Bull de New York. Ça fait des années à New York qu'on s'attend que le Red Bull va se rendre en finale. Cette année, je crois qu'avec Thierry Henry et Bradley Wright Phillips, qui est fini premier buteur de la Ligue cette saison, on a les atouts nécessaires pour se rendre jusqu'en finale et espérer remporter la Coupe MLS. Thierry Henry, qui d'ailleurs fait jaser beaucoup ces temps-ci, car son contrat se termine avec le Red Bull de New York, et on se demande où est-ce que Thierry Henry va atterrir la saison prochaine. Va-t-il rester en MLS? Va-t-il faire un retour en France avec son club formateur? Est-ce que le Paris Saint-Germain pourrait être intéressé par Thierry Henry? Va-t-il retourner à Arsenal, là, où il a connu ses plus beaux moments? Tout ce qu'on sait présentement, c'est que Thierry Henry a encore beaucoup de beaux soccer à donner. Reste à savoir la décision qu'il va prendre. Mais une chose est sûre, c'est qu'il ne sera pas de retour avec le Red Bull, équipe qui a beaucoup de problèmes financiers, et je pense pas que ça va aider d'avoir une deuxième concession à New York, qui a déjà attiré des grandes vedettes parmi ses rangs, dont David Villa, dont Frank Lampard, des joueurs de haut calibre. Donc je pense que les Red Bulls vont perdre un peu de leurs amateurs aux dépens du New York FC. Et on verra pour l'avenir de cette concession, mais une chose est sûre, Thierry Henry qui ne sera pas de retour avec la formation la saison prochaine. Maintenant, assez parlé de soccer, j'aimerais parler de boxe, car samedi soir, RDS présente en primeur le combat entre Bernard Hopkins et Sergey Kovalev. J'ai été étonné premièrement de voir que RDS présentait un combat à la carte gratuitement pour tout le monde, pour tous ses abonnés. C'est, à ma connaissance, la première fois que ça arrive, et ça risque d'être un excellent combat de boxe qui va dicter les futurs, les prochaines années de la boxe au Québec. Et je m'explique, on a Jean-Pascal et Adonis Stevenson qui attendent après ces gars-là. Aujourd'hui, pendant une conférence de presse, Sergey Kovalev a dit que s'il battait Bernard Hopkins, il considérait un combat avec Jean-Pascal. Pourquoi Jean-Pascal plutôt qu'Adonis Stevenson? Eh bien, la gérante de Kovalev a dit qu'elle n'aimait pas la façon de travailler d'Adonis Stevenson. Elle a même déclaré de peureux, de poule mouillée, lui et son gérant. Donc, j'ai bien hâte de voir ce qui va se passer à ce sujet, mais Jean-Pascal pourrait avoir sa chance avec Sergey Kovalev s'il venait à battre Bernard Hopkins. Chose qui n'est pas faite. Bernard Hopkins qui, à l'aube de souffler sa 50e bougie, est plus en forme que jamais. J'écoutais justement hier un documentaire fait par HBO, 24/7, qui montrait les aptitudes d'entraînement de Bernard Hopkins, sa saine qualité de vie, sa saine alimentation, son entraînement. Ce gars-là est tout simplement une machine. Il y avait même un médecin qui faisait un commentaire sur la forme physique de Hopkins. Il disait qu'il était plus en forme selon les résultats de ses tests qu'un homme à l'âge de 20 ans. Donc, Benoît Hitchens qui approche peut-être la cinquantaine, mais qui est toujours au sommet de son art. Et je sens que ça va être un très bon combat. On a un Kovalev, un cogneur, un gars qui passe le KO à ses adversaires, gagné par KO à ses 13 derniers combats. De l'autre côté, on a un Hitchens vieillissant, mais qui a l'habitude des longs combats, gagne souvent ses combats par décision, décision unanime, domine ses adversaires du début à la fin, se défend bien, accroche. Un bon style de boxe, une vieille boxe, mais il joue stratégique et c'est ce qui fait sa renommée. Écoute, Bernard Hopkins, un des meilleurs boxeurs certainement à avoir vu le jour dans la boxe professionnelle. Donc, samedi soir sur RDS, ne manquez pas ça, c'est gratuit pour tout le monde. Je conseille ce combat-là à tous les Québécois amateurs de boxe. Ça risque de fesser fort et ça risque d'être un excellent combat. Je prédis, ma logique prédit Kovalev en 7-8 par KO, mais mon cœur y va avec Bernard Hopkins par décision. Donc, reste à voir lequel des deux qui va l'emporter. Donc, voilà ce qui met fin à la première édition du Sportif de Salon. J'espère que vous avez apprécié. Je vous fais ça en dedans d'une demi-heure cette semaine. C'était vraiment un épisode pilote. Je voulais tester les capacités techniques de mon ordi, de mon micro, voir si l'enregistrement allait bien se passer. J'espère que le produit final vous intéresse. J'espère que vous allez continuer d'écouter ce que j'ai à dire. Et surtout, n'hésitez pas, je vais mettre mon adresse courriel disponible avec le podcast. N'hésitez pas à m'envoyer des questions, à envoyer des commentaires que je vais pouvoir débattre, dire ce que moi je pense de ce que vous pensez. Bref, le but de ça, c'est d'échanger avec vous puis de parler de sport parce que, bref, c'est ça qui m'intéresse dans la vie. Donc, n'hésitez pas à faire signe. Je vous remercie encore une fois d'avoir été à l'écoute. Mon nom était Nicolas Chélan et on se reparle très bientôt pour une toute nouvelle édition du Sportif de Salon. I get no doubt.